BFM Business. BFM Bourse, le club.
Le club avec nos deux invités en plateau, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Stéphane.
Et Wilfried Gallon, directeur et stratégiste chez Montpensier Finance. Bonjour Wilfried, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Plein d'actualités, je vous donne d'abord le CAC puisqu'on est à une demi-heure de la clôture, plus 0,95%, on est à 6104 points. Actualité notamment en provenance du G7, Emmanuel Macron est favorable au plafonnement des prix du gaz et du pétrole. Ça fait l'objet d'un consensus politique au sein du G7, mais il doit être élargi à une alliance d'acheteurs pour pouvoir le rendre effectif. Traduction, Wilfried Gallon, c'est un vœu pieux, mais ça va être compliqué à mettre en œuvre.
C'est-à-dire que quand on commence à dire qu'il va falloir l'élargir à l'ensemble des acheteurs, je pense qu'on a déjà compris les limitations opérationnelles de ce souhait. Alors, on voit bien que l'idée, c'est quand même de mettre tout le monde devant ses responsabilités, en particulier ceux qui essayent de profiter de la situation énergétique en Europe pour acheter du pétrole et du gaz pas cher. Donc on pense évidemment à la Chine, mais on pense aussi à l'Inde, il y a pas mal de pays comme ça qui disent bon, ça peut être une idée formidable pour nous de récupérer des ressources énergétiques à moindre frais. L'idée derrière, c'est d'avoir une espèce d'approche un peu plus coordonnée et qui soit pas uniquement restreinte à l'Ouest, à la version, on va dire, historique de l'Occident, pour montrer qu'il y a, de tous les pays, un consensus pour dire qu'il ne faut pas que la situation, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, la situation finalement profite aux Russes, hein, en termes de mix entre volume et prix. Mais on voit bien que c'est extraordinairement compliqué à mettre en place, qu'aujourd'hui, on se heurte à des mécanismes de marché qui sont très clairs. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez une partie du pétrole ou de n'importe quel élément sur le marché et que vous essayez de le compenser par d'autres productions qui sont plus difficiles à mettre en place ou en tout cas sur lesquelles il y a des difficultés, et Emmanuel Macron l'a mentionné, en particulier sur le pétrole raffiné, c'est quand même beaucoup plus complexe, vous avez un mécanisme qui peut s'ajuster, non pas par les prix, mais par les quantités. L'économie, c'est simple. Hein. Quand vous ajustez pas par les prix, vous ajustez par les quantités. Donc, si vous bloquez les prix, à un moment donné, vous créez de la pénurie. Donc, pour ne pas créer de pénurie, il faut véritablement avoir une approche de cartel, un peu comme l'OPEP, mais dans le sens inverse, en fait. C'est pas l'organisation des pays producteurs de pétrole, c'est l'organisation des pays consommateurs de pétrole. Mais il faut que ce soit un peu comme l'OPEP, c'est-à-dire extrêmement représentatif de peut-être 70% du marché pour que ça ait un impact. Je reste quand même extrêmement sceptique sur la possibilité opérationnelle de le mettre en place. Mais effectivement, je vois bien l'idée, je la partage, mais je pense que ça va être quand même très très dur opérationnellement.
Vincent, vous partagez l'analyse de Wilfried ?
Complètement, mais de toute façon, quand bien même on mettra en place un cartel de ce type-là, ça serait pour combien de temps, puisque de toute façon on a envie de basculer vers des énergies nouvelles. Donc de toute façon, l'idée, ça serait d'avoir effectivement une force acheteuse un peu plus structurée que ça l'est aujourd'hui. Est-ce qu'on fasse, on obtiendrait plus de gaz ? Non, absolument pas. De toute façon, quand on regarde les contraintes techniques de gazéification, dégazéification, le transport du gaz d'un endroit à un autre, tout ça est extrêmement compliqué. Quand bien même vous vous coordonnez sur un prix, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir réorganiser de façon pratique les transferts et les flux de circulation de ces produits. Donc, je pense de toute façon que c'est voué à l'échec.
Oui. Parenthèse peut-être sur le gaz. On voit bien que le discours est en train de changer. La semaine dernière, le gouvernement disait qu'il fallait réduire la consommation de gaz et d'électricité de 10% dans les deux ans, surtout pour les entreprises et les industriels. Là, on commence à nous parler peut-être de gestes indispensable au niveau des consommateurs. Ça va être compliqué l'hiver prochain.
Il est sûr qu'aujourd'hui, le marché, pour reprendre notre analogie, doit s'équilibrer différemment. Donc pour l'équilibrer différemment, soit vous ajustez votre offre, disant il faut trouver de l'offre supplémentaire et vite. Donc de l'offre supplémentaire, c'est possible via, par exemple, le gaz de schiste aux États-Unis, mais on sait que c'est compliqué à acheminer, à liquéfier, et ne parlons pas de trouver du gaz de schiste en Europe. On sait qu'il y a des ressources en Europe, mais développer ces capacités-là, faire sauter les verrous réglementaires, c'est extrêmement difficile. Donc il reste effectivement à agir sur la partie demande. Quand on regarde les équilibres de demande en Europe, effectivement, les très gros consommateurs de gaz en particulier, je ne parle pas d'électricité, mais de gaz en particulier, sont des consommateurs industriels. En particulier, toute la partie emballage, la partie verre, demande énormément de chauffage au gaz. Il est évident que compte tenu des équilibres politiques, en particulier en France, qui sont un peu complexes, on va dire, en ce moment, c'est difficile de dire aux seules entreprises, j'ai entendu sur une excellente radio ce matin, le patron de la CPME est un peu critique hein, sur les équilibres qui pouvaient être trouvés en demandant encore plus d'efforts aux entreprises. Il est évident que les équilibres politiques demandent de partager les efforts. Il est également évident que pour des questions d'équilibre politique, les entreprises ne votant pas, les particuliers votant, la plupart des efforts seront véritablement demandés aux entreprises. C'est évident et c'est là où c'est le plus efficace. Maintenant, effectivement, c'est une question, je pense, de positionnement politique, de dire il faut également qu'on fasse tous un effort, un peu comme ce qui a été fait d'ailleurs à la fin de cet hiver sur la partie chauffage des particuliers. On a vu quand on écoute Engie par exemple, la consommation a été par exemple sur le mois de mars inférieure à ce qu'ils attendaient parce que les particuliers ont fait aussi un effort. Enfin, les entreprises ont fait un effort, les particuliers ont fait un effort.
Objectivement, ça dépend pas surtout des températures.
Il y a beaucoup de choses qui dépendent des températures. Je pense que c'est une ambiance générale qui vise à dire. N'attendons pas non plus l'intégralité de l'équilibrage du marché d'un travail sur l'offre qui doit être fait de la part de tout le monde pour acheminer davantage d'énergie, pour la partie énergie renouvelable, pour l'efficacité du réseau. Mais essayons de travailler aussi sur la partie demande. Ça paraît normal. Là aussi, je pense que l'impact sera relativement faible.
Autre sujet d'actualité, pas très très loin de celui-ci, la Russie. Est-ce que la Russie est réellement en défaut de paiement ? Le pays n'a pas honoré le paiement de sa dette étrangère pour la première fois depuis 1918. Défaut provoqué par les sanctions internationales, rappelle Moscou. L'agence de notation Moody's, elle, reconnaît le défaut de paiement. Vincent ?
D'un point de vue technique, elle fait défaut. La question est de savoir est-ce qu'en réalité, elle aurait pu payer ? Est-ce qu'elle était solvable ? La réponse est oui, elle était parfaitement solvable. Elle avait les dollars nécessaires. C'est juste une question de tuyaux qui ont été intentionnellement fermés. Donc on a en réalité interdit à la Russie de payer sa dette.
Donc, oui. Sauf que techniquement, ça déclenche un certain nombre de mécanismes, les CDS,
l'assurance,
notamment.
Etc., bien sûr. Oui. Oui, donc effectivement, c'est un événement important et pour les investisseurs sur les marchés, c'est effectivement quelque chose de significatif de voir que le défaut est effectivement reconnu parce que ça déclenche des mécanismes d'assurance. Mais pour moi, la question est de savoir. Est-ce que c'était un vrai défaut ou un faux défaut ? Est-ce que c'est un défaut qui est un défaut politique ? On l'a volontairement provoqué. La Russie avait parfaitement les moyens de payer sa dette.
Donc, mais avec quelles conséquences sur les marchés ?
La conséquence, une fois encore, c'est que les assurances peuvent être déclenchées. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'investisseurs qui se seraient protégés au travers de CDS vont pouvoir les activer.
Wilfried.
Je pense qu'effectivement, on doit analyser deux types de conséquences. Le premier volet de conséquences pour la Russie à moyen et long terme, et deuxième volet de conséquences pour les acteurs financiers et pour le système financier en tant que tel. Pour la Russie, l'impact sera relativement faible parce que, comme l'expliquait Vincent, c'est un défaut technique qui ne met pas en cause le modèle économique de soutenabilité de la dette russe. Et donc, la capacité ultérieure de la dette, c'est ça le problème. Hein, c'est quand vous faites défaut, en général, il se passe quand même quelques années, voire quelques dizaines d'années, avant que des prêteurs classiques reviennent vers vous en disant je vous redonnerai bien un peu d'argent. Bon, je pense que les emprunts russes en France, c'est quelque chose que toutes les familles ont eu à un moment donné comme histoire à raconter au coin du feu. Donc, on n'en est pas du tout là. Et donc, si la Russie venait à revenir dans le circuit international, ce qu'on peut quand même souhaiter à moyen long terme, il n'y aura pas de sujet particulier une fois qu'effectivement les histoires de tuyauterie seront établies. La question qui se pose de façon plus immédiate, c'est quelles étaient les expositions à la dette russe et comment est-ce que le déclenchement des assurances type CDS va fonctionner? Comment est-ce que certains fonds qui pouvaient éventuellement être exposés à la détruction sans être couverts, comment est-ce que les choses vont se passer? Je pense qu'on a eu suffisamment de temps pour se préparer à cet événement-là, pour considérer que il s'agit pas d'un événement qui puisse mettre en danger d'une quelconque façon la stabilité d'une partie du système financier.
Et c'était le sens de ma question.
Voilà, donc on a pas de LTCM quelque part qui couvre, je ne pense pas. Il faut attendre. Toujours dans ces domaines-là, il faut toujours attendre quelques semaines pour savoir effectivement qui était véritablement exposé. Est-ce qu'on n'a pas de mauvaises surprises sur des fonds de dette qui auraient racheté de la dette à d'autres types d'investisseurs? Je pense que tous ceux qui l'avaient fait, l'avaient fait en toute connaissance de cause et avec les couvertures nécessaires.
Troisième sujet, ce sera notre plat de résistance, c'est la réunion des banques centrales, sommet de la BCE. La BCE ira aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation. C'est ce qu'a déclaré ce matin Christine Lagarde en ouverture de ce forum annuel. Pas de surprise, elle estime que l'inflation va rester excessivement élevée dans la zone euro pendant un certain temps. Et elle précise que ça représente un grand défi pour notre politique monétaire. Néanmoins, Vincent, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce discours de Christine Lagarde et probablement la réalité, puisqu'on attend 25 points de base de hausse de taux seulement le mois prochain lors de la réunion de la BCE?
Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a d'un, le contexte évidemment géopolitique qui complique les choses. C'est difficile de prendre des mesures ultra agressives, alors même que de l'autre côté, vous avez le ministre des Finances allemand qui vous dit on a un crash possible de l'économie allemande cet hiver parce que la Russie va nous couper le gaz. Donc c'est difficile, je pense, pour la Banque Centrale Européenne de prendre des mesures ultra agressives dans ce genre de schéma. La deuxième chose, c'est que quand on regarde la décomposition de l'inflation en Europe, pour le moment, la moitié provient de l'énergie et matières premières. Donc est-ce que c'est très efficace de remonter de façon ultra violente les taux d'intérêt? Ça va pas créer le moindre baril de pétrole additionnel, on n'aura pas plus de blé, on va jouer sur la demande. Oui, ça aura une certaine influence, mais au bout du compte, on n'aura pas apporté plus de gaz ou plus de pétrole dans l'Union européenne.
Mais quel est l'intérêt d'utiliser tous ces superlatifs si derrière on a finalement une hausse de taux assez modérée? 25 en juillet et a priori 50 points de base en septembre.
Parce que quand on n'a pas les moyens d'utiliser les armes, on utilise les mots. Et je pense que les banques centrales sont habituées à ça. C'est-à-dire que depuis des années, une partie importante en réalité de la politique monétaire, c'est le vocabulaire. Donc faire attention, c'est bien pour ça que les investisseurs regardent de façon ultra détaillée le changement d'une réunion à la suivante, le mot par mot, virgule par virgule, comment la phraséification s'est faite, parce que bel et bien on sait que le vocabulaire et les mots ont presque autant de puissance que une hausse de 25 points de base.
Wilfried, la Fed aussi avait commencé doucement avec une hausse de 25 points de base pour sa première hausse de taux. Depuis, évidemment, les choses se sont nettement accélérées. On attend encore 75 points de base pour la prochaine réunion. Vous pensez qu'elle
50 ou 75, c'est pas sûr.
Oui. Le pari est encore ouvert. En tout cas, on vient d'avoir 75 et on pourrait avoir encore 75. Ouais. Vous, votre sentiment, c'est que les banques centrales sont peut-être en train de faire une erreur?
En fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'effectivement, comme les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale, c'est moins vrai de la Banque centrale européenne, qui doit en plus gérer le sujet de la fragmentation de la zone euro, le sujet de l'intégrité de la zone euro, qui est quand même très très complexe. On n'est pas du tout dans la même situation. Mais la Réserve fédérale a clairement démarré tard son programme de resserrement monétaire et a laissé filer sur le marché, en particulier tout le volet. C'est un petit peu technique, mais tout le volet des MBS, donc tout le volet des titres hypothécaires américains qu'elle achetait encore en masse jusqu'au mois de mars, alors que le marché de l'immobilier américain, là aussi jusqu'au mois de mars, était véritablement en train de flamber, et ceci depuis un an. Donc c'était pas une nouveauté. Donc la Fed était clairement en retard dans sa volonté de maîtriser l'inflation et a essayé de compenser ce retard en allant très vite et très fort avec un retard en plus supplémentaire, vous l'avez mentionné en incise, c'est-à-dire qu'au mois de mars, elle n'a fait que 25 points de base, justement parce qu'il y avait le sujet de la guerre en Ukraine. Et donc, Jérôme Powell a clairement dit, là, on ne sait pas trop comment ça peut se passer, donc on commence par 25 points de base et on verra plus tard. Et le risque, c'est qu'en fait, en voulant aller très très vite pour compenser un retard, on sait qu'on ne compense jamais le retard qu'on a pris, en fait, on casse complètement la dynamique économique à la fois américaine et la dynamique mondiale, et on se retrouve dans une situation où on est une récession beaucoup plus forte qu'annoncée. On voit les indicateurs avancés américains qui sont quand même en train de tomber à une vitesse qui est extrêmement importante. Quand on voit par exemple les indices PMI américains, on a des baisses de ces indices, pas des niveaux, hein, mais des baisses de ces indices qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2008. Novembre 2008, on est juste après le crash de Lehman Brothers. Donc on a véritablement une baisse très très importante des indicateurs avancés américains. Et en fait, ma crainte, c'est qu'en voulant casser l'inflation, on casse tellement la mécanique économique qu'on la casse pour de bon. C'est-à-dire qu'on sait que la problématique de l'inflation, la problématique des monétaires, n'arrive dans les politiques économiques, dans la vie réelle, que 6 à 9 mois plus tard. Donc là, en fait, on est en train de travailler pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Si on continue à resserrer les conditions monétaires à toute force, on va se retrouver dans 6, 9 mois, donc un an plus tard.
Une gigantesque claque sur l'économie.
Avec une gigantesque claque. Et il ne faut jamais oublier que lorsqu'on compare la situation à 79 et à Paul Volcker,
qui avait remonté les taux de manière assez brutale.
Pourquoi est-ce que Paul Volcker remonte les taux? Il remonte pas les taux, en fait, pour casser l'inflation. Paul Volcker remonte les taux pour redonner de la crédibilité au dollar. Paul Volcker arrive en 79 après 8 ans de crash ininterrompu de dollars depuis l'arrêt de Bretton Woods et du système d'étalon or, 76 des accords de la Jamaïque qui arrêtent le système de change fixe, et donc le dollar s'effondre littéralement. On a un problème de crédibilité de la monnaie mondiale. Donc ce que doit faire Paul Volcker à l'époque, c'est pas tellement casser l'inflation, qui n'est qu'une résultante de cette instabilité monétaire. Il doit absolument redonner de la crédibilité au dollar, d'où d'ailleurs toute la politique et tout maintenant le dogme du dollar fort, parce qu'il ne faut surtout pas avoir un dollar faible, sinon on importe de l'inflation. Il faut exporter son inflation. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On a une véritable stabilité monétaire. Alors oui, dans les plateaux, on arrive à trouver énormément de discussions autour de le dollar, l'euro, mais on est entre 1,05 et 1,10, mais en fait, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, on a une stabilité monétaire. Donc, il ne faut pas comparer des situations qui ne sont pas comparables et essayer à toute force, parce que j'entends à cette comparaison en disant Jérôme Powell se veut le nouveau Paul Volcker. Mais la situation n'a absolument rien à voir. Et donc attention à ne pas utiliser des mécanismes extraordinairement puissants qui vont nous demander ensuite de réparer une économie qui ne demandait qu'à aller gentiment vers effectivement un atterrissage un peu plus soft. Il fallait remonter les taux, par exemple au niveau des croissances potentielles. La croissance potentielle américaine, c'est à peu près 2%. La croissance potentielle européenne, c'est à peu près 1%. Remonter les taux autour de 2% aux États-Unis en cible, et c'est-à-dire à peu près 50 points de base de plus que ce qu'on a aujourd'hui, et autour de 1% pour l'économie européenne, oui, c'est à peu près, ça me paraît logique. Aller doubler ou tripler ce montant, comme ce seuil, comme j'en entends parler, je dis quand même attention.
Vincent, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter?
Que les États-Unis sont sur un rythme de croissance qui est supérieur à celui qu'ils avaient avant la Covid, autrement dit la dynamique est déjà dépassée, que l'Europe est par contre en dessous. Autrement dit, les États-Unis, pour moi, peuvent se permettre effectivement de taper plus fort, sans même parler du fait qu'ils ont une inflation qui est déjà plus diversifiée, plus auto-entretenue par les salaires, la dynamique n'est pas la même. Mais pour moi, effectivement, les États-Unis peuvent se permettre de frapper beaucoup plus fort.
Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Wilfried?
Non, moi je pense qu'on est sur
des nuances.
Oui, c'est ça, c'est des nuances, on est d'accord.
C'est la télé, j'essaie de le mettre un petit peu en scène quand même. Une question concernant l'inflation dans la zone euro et en France notamment, augmentation générale de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet. Est-ce que ça c'est pas une diffusion de l'inflation au salaire?
C'est un rattrapage de ce qu'on n'a pas fait pendant 5 ans.
Il est nuancé tout le temps.
Non, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas touché...
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Simplement, je suis en train de dire que l'augmentation, la transmission de l'inflation au salaire, elle est réellement en train de se produire chez nous.
Oui, chez nous et ailleurs.
En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Le véritable sujet, c'est à partir de quel seuil l'inflation change les anticipations économiques des acteurs, donc change la trajectoire potentielle économique. C'est ça le véritable sujet. Là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est effectivement, comme le disait Vincent, d'un rattrapage. Et toutes les études économiques, alors je prends par exemple Robert Shiller, hein, qui est prix Nobel d'économie, qui a fait des études en 1994 et 96 sur l'inflation américaine des années précédentes. Donc les années précédentes, on était en fait autour de, en moyenne, entre 5 et 8% d'inflation. On a eu des pics, mais on était à peu près à ces niveaux-là. Et il a montré qu'entre 5 et 8% d'inflation, en fait, les anticipations économiques des acteurs ne changeaient pas. On avait effectivement des phénomènes de rattrapage de salaires. Donc, on avait les salaires qui finissaient par s'ajuster. On avait des anticipations des acteurs qui finissaient par s'ajuster. Mais globalement, la trajectoire économique ne changeait pas. Et on a eu la même chose, en fait, quelques années plus tard par la Banque mondiale, qui a fait une étude cette fois sur l'intégralité des pays membres de la Banque mondiale, donc avec effectivement des poussées d'inflation beaucoup plus fortes, et qui, elle, a montré que il fallait rester en deçà de 40% d'inflation. Alors 40% d'inflation, pour donner une idée, c'est ce qu'on a aujourd'hui en Argentine et c'est ce qu'on tutoie par exemple en Turquie. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur un certain nombre de pays. Mais en dessous, dans le périmètre qu'a étudié la Banque mondiale, en fait, on finit par avoir des niveaux de prix global et de salaire supérieur, mais finalement on ajuste les anticipations économiques. Donc toute la question, c'est il faut pas briser des anticipations économiques qui ne demandent en fait qu'à s'ajuster.
Vincent,
un tout petit mot pour compléter ce que vient de dire Wilfried. Le gros des effectifs de fonctionnaires en France sont dans les services, ce qui veut dire que le risque de spirale inflationniste, donc une transmission vers le prix final qui de nouveau retourne, il n'existe pour ainsi dire pas. On est sur des services et l'État contrôle en réalité l'étape suivante qui est la non-spirale.
On rattrape le niveau de prix général.
Exactement.
On va marquer une pause. Juste après, on s'intéressera au marché américain et puis on parlera à l'un et à l'autre de votre stratégie sur les marchés actions dans ce contexte qu'on vient de commenter un peu longuement. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business, BFM Bourse, le club.
Deuxième partie du club avec toujours nos invités en plateau, Wilfried Gallon, directeur et stratégiste chez Montpensier Finance, et Vincent Lecoeurtier, responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Avant de poursuivre notre discussion en direction les États-Unis, Sabrina Qualiozzi nous attend depuis un petit moment. Désolé Sabrina, on vous a fait attendre. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P, tout le monde est passé dans le rouge.
Pas de souci. Oui, effectivement, là, on vient à l'instant de passer dans le rouge sur l'indice Dow Jones qui a résisté. Le S&P 500, moins 0,5%. Le Nasdaq, de son côté, affiche une baisse plus marquée d'1,15%. Des marchés qui avaient pourtant démarré la séance sur de très belles progressions après une séance encore très volatile hier. Et puis, on a eu la publication de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui a jeté un froid 98,7 sur le mois de juin contre 103,2 en mai. On l'attendait aux alentours de 100. Des marchés qui ont donc réagi négativement à cette publication, avec un marché qui, bien sûr, est animé par des craintes de récession. Certes, le président de la Fed de New York ce matin s'est exprimé là-dessus, John Williams, qui estime qu'une récession n'est pas son scénario de base. Certes, ralentissement de l'économie, mais pas récession. Pour lui, les États-Unis vont réussir à éviter la récession. Reste que ce n'est pas le sentiment de tout le monde. Vous avez par exemple Cathie Woods, d'Ark Invest, qui elle estime qu'on est déjà en récession aux États-Unis. Bref, beaucoup de nervosité sur ces marchés qui repassent donc dans le rouge. Du côté de l'obligataire, vous avez un 10 ans qui se tend, 2,21 actuellement. Le pétrole, de son côté, est en hausse d'1,4%, au-dessus des $110 le baril de brut. Et même la belle performance des valeurs bancaires ne suffit pas à maintenir l'indice Dow Jones, donc, puisque on a de très belles performances sur ce compartiment-là, dans le sillage du relèvement de dividendes de plusieurs établissements bancaires suite à la publication des stress tests, les tests de résistance annuelle. Une réussite de ce côté-là. Goldman Sachs a annoncé une hausse de 25% de son dividende. Goldman Sachs qui prend 0,4%. On prenait 2% ce matin sur le titre. Ça s'essouffle nettement. Citigroup passe d'ailleurs désormais dans le rouge, moins 0,4%. Citigroup qui a décidé de ne pas toucher son dividende. De même que JP Morgan. C'est Nike qui pèse en fait sur l'indice Dow Jones lourdement. Le titre Nike qui perd un petit peu plus de 4% actuellement après la publication de résultats trimestriels. Pourtant supérieur aux attentes sur le trimestre écoulé, malgré les restrictions en Chine, malgré des consommateurs américains un peu frileux. Mais les prévisions pour le trimestre en cours sont inférieures aux attentes. Les challenges persistent, nous dit Nike, et le titre donc perd un petit peu plus de 4%. On termine avec le dossier Spirit Airlines. Ça bouge beaucoup de ce côté-là, une semaine importante puisque les actionnaires de Spirit Airlines doivent se prononcer cette semaine sur le rachat de par frontière de Spirit Airlines, une offre qui a d'ailleurs été améliorée récemment par offre de Frontier Airlines, mais il y a JetBlue qui est également intéressé et qui aujourd'hui a fait une nouvelle offre. Bref, des marchés qui réagissent à ces annonces. On a un titre Spirit Airlines qui prend 1,5%, JetBlue de son côté plus 0,9%. Mais la tendance donc est désormais négative sur ces marchés américains. Stéphane, on est en baisse après un début de séance en territoire positif. Le Nasdaq perd désormais un petit peu plus de 1%. Ça s'accélère même, 11 375 points. Le S&P 500 cède 0,6% et le Dow Jones perd désormais 0,3%.
Merci beaucoup Sabrina Koualiozzi en direct des États-Unis. À la Bourse de Paris, le CAC progresse de 0,63%, 6085 points. La clôture, ce sera à 17h35 si on est à l'heure avec
on va partir battu.
Aude Kersulec en direct de Euronext et notre invité en plateau Pierre Bouchny pour refaire cette séance. Retour dans le club. Il nous reste en théorie 7 minutes, je suis sûr qu'on va déborder. Vincent Lecoeurtier, Wilfried Galland. Qu'est-ce que vous faites de ce marché? On a parlé évidemment des conditions un peu compliquées, des prix de l'énergie, du défaut de la Russie. Vous m'avez dit l'un et l'autre que ça n'aurait pas de risque systémique pour nous. De la BCE qui évidemment nous confirme que l'inflation va rester très présente. Vincent, le marché.
Nous, on fait le pari que le pic d'inflation approche pendant l'été, qu'en plus, en termes de timing, on aura probablement une inflexion du discours de la Fed, parce qu'en réalité, elle a une pression de l'administration Biden de parler de l'inflation jusqu'aux élections de mi-mandat, et qu'après ça, ça sera de nouveau la croissance et l'emploi qui sera déterminant pour la présidentielle. Donc, pour nous, il pourrait y avoir une inflexion de discours au moment de Jackson Hole, donc fin août. Donc, nous, on joue ce timing-là et par avance, en fait, on a commencé à repositionner un petit peu les portefeuilles en supprimant tout ce qui était ou une partie de ce qui était obligation indexée sur l'inflation, en rallongeant les maturités sur les obligations souveraines. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a modifié notre exposition sur le Nasdaq. Autrement dit, on a commencé à la remonter puisqu'en fait les valeurs de croissance sont celles qui ont le plus souffert de la remontée des taux d'intérêt, donc on y trouve un intérêt de nouveau. On a commencé à picorer un petit peu sur le high yield qu'on avait complètement exclu de nos allocations depuis un an et demi, et on a joué un tout petit peu sur nos expositions Standard & Poor's. On a retiré l'exposition dollar. Autrement dit, pour nous, le décalage de politique monétaire entre la BCE et la Fed, qui a profité en partie au dollar jusque-là, pour nous, il est probablement derrière nous. Donc, ça a moins d'intérêt d'être exposé dollar et on revient un petit peu plus vers l'euro désormais.
Vous avez une poche de cash importante. La semaine dernière, certains gérants nous disaient qu'ils avaient 45% de cash. Énorme, surtout dans un contexte d'inflation.
Alors nous, on gère des contrats d'assurance vie avec 10 contrats, avec des niveaux gradués de risque et donc d'exposition au fonds en euros. Mais dans la pratique, on est à neutre sur l'exposition au fonds en euros, sur tous nos portefeuilles. Ça, depuis le début de l'année. On aurait dû en avoir un petit peu plus, du coup. Mais bon, sans trop de regrets, parce qu'on a réussi à avoir des matières premières, on a réussi à avoir du dollar, des obligations indexées, on avait de l'Angleterre qui nous a un peu protégés sur le thème des matières premières également. Donc voilà, c'est pas très grave. On a, disons, amorti la baisse en début d'année. Donc on reprend un petit peu d'exposition pour la deuxième partie.
Wilfried ?
Oui, je pense que...
Il faut à la fois rester prudent en ce moment, j'ai expliqué pourquoi, et en parallèle ne pas s'interdire de commencer à avoir des investissements un peu gradués sur ces niveaux-là, parce que on peut pas du tout exclure le fait que la partie taux d'intérêt soit désormais à peu près dans le marché. Et donc, ça voudrait dire effectivement qu'on serait en train de construire une position pour un rebond. La vraie question qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est est-ce qu'on va avoir une récession des earnings, des résultats d'entreprise, et de quelle ampleur, ou pas. Si les résultats tiennent à peu près, ça veut dire qu'en termes de valorisation, on a déjà fait une très très grande partie du chemin à la baisse. Si on est sur juste un ralentissement économique, on a peut-être connu les plus bas. La question qui va se poser et à laquelle on va avoir une partie de la réponse lors de la prochaine saison de résultats là qui commence au mois de juillet, c'est effectivement est-ce que les entreprises vont modifier leurs perspectives et est-ce que les résultats d'entreprise vont baisser de façon significative, et question subsidiaire, est-ce qu'on peut avoir un événement financier, une récession financière, ce que j'appelle moi une récession bilantaire, qui se rajoute à cette récession de compte de résultats. Donc, est-ce qu'on va avoir, par soit un pays émergent, soit un événement lié aux crypto-monnaies, lié à la dette à haut rendement avec une montée du risque, le fait qu'on peut avoir justement ce fameux événement de crédit qui réintroduit une grosse part d'incertitude et de risque dans les bilans, auquel cas il faut encore attendre un peu et on aurait encore une belle jambe de baisse devant nous. C'est pour ça que les équilibres sont pas faciles à faire. Je pense que commencer à prendre certaines positions, comme l'explique Vincent, ça me paraît une bonne idée. Mais il faut rester globalement assez prudent parce que ce n'est que effectivement dans la deuxième partie du mois de juillet, au moment de la saison des résultats, qu'on commencera à avoir déjà la première partie de la réponse à ma question, c'est-à-dire l'ampleur de la baisse des résultats. Et ensuite, être très vigilant sur, on a parlé des problématiques effectivement liées à la détrus, mais sur tous les segments de marché qui ont énormément souffert. On sait qu'aujourd'hui, il y a des liens, par exemple, très forts entre la finance traditionnelle et les crypto-actifs. Il y a énormément de liens qui se sont montés les deux dernières années, en termes de produits structurés, en termes de fonds d'investissement, en termes de hedge funds. Il y a énormément de liens qui se sont faits. On a eu un crash très important dans les 8 derniers mois. Ça ne veut pas dire, depuis 2 ans, ça monte, mais de 8 derniers mois, c'était très important. Qui était exposé, qui avait des effets de levier très importants, est-ce qu'on peut avoir des effets de bord? On le saura là aussi dans les quelques semaines, quelques mois qui viennent. Donc il ne faut pas jouer au héros en ce moment. Commencer à bâtir des positions, oui, parce qu'on n'investit jamais au plus bas de toute façon, mais il faut quand même garder de la poudre sèche significative.
Merci beaucoup à tous les deux. On va essayer de ne pas être trop en retard. Vincent Lecartier, responsable de la location d'actifs chez WeSave, et Wilfried Galland, directeur et stratégiste chez Montpensier Finance. 15h34, on est à 30 secondes du fixing. On marque une pause et on retrouve Aude Kersulec au siège d'Euronext.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Plus 0,64% pour la clôture de ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC termine finalement à 6086 points. On va en parler avec Aude Kersulec en direct du siège d'Euronext. Aude, clairement, c'est pas le plus haut de la séance.
Oui, et puis heureusement qu'on clôture à 17h30, puisque sinon, à cause des indices américains, on serait descendu peut-être bien plus bas. En tout cas, on a perdu une bonne partie de notre hausse depuis 16h. C'est le grand plongeon. Alors, il nous en reste quand même un petit peu. On est dans le vert, on est à plus 0,6%. On repasse en revanche sous les 6000 points. On les avait passés dans la journée et même un petit peu plus. 6086 points maintenant. On sent que les marchés continuent d'être bien volatiles. Alors, sur le CAC 40, on a une très forte progression de l'industrie, notamment dans l'aéronautique avec Safran ou Airbus qui gagnent respectivement 3,8% et 1,8%. Mais l'industrie automobile marche aussi pas mal, avec Renault qui gagne plus de 2%, qui a annoncé un partenariat dans la journée avec Atos. Atos qui rebondit aussi de 3,4%. Puis on a les équipementiers aussi qui continuent d'aller assez fort. Là, c'est sur le SBF 120, plus 4%. Et puis EDF qui contre toute attente, aujourd'hui s'offre la plus forte hausse du SBF 120, plus 4,6%. La bourse qui continue d'espérer un retrait prochain de la cote pour cette valeur qui vaut ce soir 8,15 €. En revanche, du côté des baisses, eh bien, on en a 8 sur l'indice parisien, le CAC 40. Capgemini qui perd 3,4%. Alors peut-être quelques prises de bénéfices aussi pour une valeur qui avait pas mal performé ces derniers temps. On est à 174 € pour Capgemini. Et puis on a aussi quelques valeurs de croissance d'ailleurs, ST Microelectronics, L'Oréal ou Dassault Systèmes qui perdent un petit peu plus de 1%. Et en clôture aussi, ça va finalement assez mal pour Valneva qui perd plus de 8,8% à 11,63 € après son autorisation de mise sur le marché pour le vaccin contre la Covid vendredi par l'Union européenne. Et bien finalement, pour l'instant, les investisseurs sont un peu déçus et en attendent un petit peu plus. Allez, une hausse donc ce soir, plus 0,6%, un petit peu moins bien qu'espéré, mais on fait avec, on est à 6086 points.
Merci beaucoup, Aude Kersulek, en direct du siège d'Euronext. Il est 17h39, on refait la séance.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Pierre Bouchny, directeur de la recherche chez Kepler Chevreux, est en ligne avec nous. Rebonjour Pierre.
Rebonjour.
On va parler des valeurs du luxe. Elles ont tenu jusqu'à la clôture, à l'exception peut-être de L'Oréal, mais L'Oréal c'est aussi les cosmétiques, c'est pas uniquement du luxe. Elles ont tenu et elles profitent d'une annonce de la Chine qui va réduire la quarantaine pour les étrangers qui rentrent dans le pays. Ça veut dire que les conditions économiques s'améliorent en Chine et ça c'est très bon, évidemment, pour le secteur du luxe.
Alors, c'est effectivement bon, et c'est un des secteurs les plus exposés à la thématique chinoise. Donc, effectivement, toute nouvelle qui va dans une tendance de normalisation de la situation économique et sanitaire en Chine, c'est effectivement un scénario qui semble se dessiner, avec une levée progressive des contraintes, sera perçu ou est perçu comme un bon signe pour ce secteur-là en particulier. Donc, je vous rappelle qu'il y avait une quarantaine de 14 à 21 jours qui était imposée aux voyageurs en provenance de l'étranger, donc en fonction des villes ou des provinces. Et donc, cette quarantaine, la durée de cette quarantaine a été ramenée à 7 jours, plus 3 jours a priori d'obligation de rester à domicile, mais sans doute avec un peu moins de contraintes. Donc voilà, donc ça va dans le bon sens. Il est certain que ce secteur-là a été très porté par la Chine au cours des dernières années. Par contre, depuis 2 ans, il faut bien avoir en tête que c'est l'Europe et surtout les États-Unis qui ont été le vecteur de la croissance et qui ont permis finalement d'absorber le ralentissement chinois. Il n'est pas récent ce ralentissement chinois. Il y avait des mesures de nature un peu politique, il y avait une mise en œuvre contre des achats de nature ostentatoire. Ensuite, donc ces politiques de confinement. Donc ça fait 2 ans en fait que la Chine souffre et le relais de croissance a été repris en particulier par les États-Unis qui ont connu une croissance assez exponentielle. Et notamment avec les mesures de soutien au pouvoir d'achat qui a été mise en place par l'administration Biden, qui est de façon un peu étonnante à profiter aussi à ce secteur-là. Donc voilà, donc la problématique aujourd'hui sur ce secteur, mais encore une fois c'est une bonne nouvelle, cette annonce chinoise, c'est de savoir si le probable ralentissement de la croissance aux US et probablement en Europe aussi sera contrebalancé ou pas. Totalement, partiellement, par un probable redémarrage un peu mécanique, on va dire, des ventes chinoises, puisque toute réouverture de la Chine aura des impacts, ce qui est assez certain maintenant, l'ampleur est difficile à estimer. Mais voilà, c'est un jeu de vase communicant entre une partie du monde qui va un peu se dégonfler en termes de croissance et l'autre partie qui devrait prendre le relais. Et donc, la conclusion de tout ça, le profit de croissance sur 2023 pour ce secteur-là.
Dans l'actualité également, le secteur de l'énergie avec cette annonce en provenance du G7 et le souhait de plafonner les prix du gaz et du pétrole russe. On l'a bien compris, hein, c'est une décision qui serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Le G7 est à la recherche d'un consensus beaucoup plus large. Est-ce que c'est de nature à avoir un impact sur les valeurs de l'énergie, des pétrolières, mais pas uniquement ?
Alors effectivement, le G7 semble avoir des ambitions importantes en matière de contrôle des prix. Il paraît difficile que ça puisse aller au-delà de la Russie hein, pour le gaz et le pétrole, en particulier sur le pétrole hein, qui est un marché mondial et qui est beaucoup plus difficile à encadrer. Ça paraît plus possible, plus probable effectivement sur les flux en provenance de Russie. Ça suppose quand même que la Russie, pour que ces sanctions soient efficaces, ne trouvent pas des clients alternatifs. Je pense que la position des Chinois et de l'Inde sur ce sujet seront extrêmement ou sera extrêmement importante. Si effectivement ces prix bradés, on va dire, se trouvent, ou ces quantités bradées trouvent preneur aux conditions de marché auprès d'autres clients, finalement c'est une sanction qui aura plutôt pénalisé les Occidentaux sans réellement pénaliser la Russie. Donc il faut être relativement prudent sur l'impact. En tous les cas, ça n'aura probablement pas d'impact sur le prix de marché global et sur le secteur. C'est bien ça qui est aujourd'hui l'élément central de la vue qu'on peut avoir sur les valeurs du secteur. Nous, on a une vue assez positive. C'est un négatif pour nous autres consommateurs, mais assez positif sur le secteur. On pense qu'il y a des éléments un peu structurels qui vont tirer la demande vers le haut sur 2022 et surtout 2023. C'est d'une part, donc on vient d'évoquer la Chine, mais le desserrement des contraintes sanitaires va se traduire probablement, voire certainement, par un redémarrage de la demande chinoise en matière de pétrole. Cette année, la Chine devrait être à peu près stable en termes de consommation de pétrole, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 20 ou 30 ans en Chine. Donc on devrait retrouver une demande chinoise en hausse, pour un petit million de barils. Le trafic aérien repartant, là aussi, c'est un assez gros consommateur de pétrole. On peut imaginer qu'on ait de nouveau un million de barils en plus, sans d'ailleurs qu'à ce niveau-là, la consommation de kérosène n'ait atteint son niveau d'avant-crise. Donc ça pourra encore continuer en 2024. Et en face de ça, effectivement, il y a une demande qui va soit moins croître, soit ralentir. Mais néanmoins, on pense que face à une offre qui reste quand même un petit peu handicapée dans sa capacité à suivre ses demandes, il y aura probablement un ajustement prix qui sera plutôt à la hausse. Alors la seule solution pour que c'est un impact sur le marché, c'est ce qu'évoquait le président Macron dans sa conférence de presse, c'est d'aller chercher un peu d'aide du côté du Moyen-Orient et de demander aux pays qui en ont la possibilité, et en particulier à l'Arabie Saoudite, d'ouvrir un peu les vannes, ce qui là pour le coup aurait un vrai impact et serait sans doute assez négatif pour l'ensemble du secteur des compagnies pétrolières.
On va parler du secteur automobile qui s'est bien distingué aujourd'hui. Les constructeurs, évidemment, 1% de hausse pour Stellantis, 2,3% pour Renault, mais aussi les équipementiers, 4% de progression à la clôture pour Valeo, 3,4% pour Faurecia. Qu'est-ce qui a fait grimper le secteur automobile aujourd'hui ?
Alors, je dirais que c'est ceux qui ont le plus pénalisé qui rebondissent le plus. Donc, c'est un peu un effet, je dirais, de retour vers les sociétés qui ont le plus souffert sur le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, là, un point important, c'était une déclaration des dirigeants de Volkswagen auprès de Reuters qui ont indiqué qu'ils n'avaient jamais autant fait de profit qu'aujourd'hui, malgré la crise des semi-conducteurs. Alors, c'est pas nouveau. On sait que les constructeurs ont eu, grâce au problème de supply, la possibilité finalement de se reconcentrer sur les modèles et les clients les plus rentables. Et donc ça s'est traduit par des niveaux de marge records pour l'ensemble des constructeurs. Donc la déclaration de Volkswagen confirme qu'on aura encore cette situation sur le deuxième trimestre. Il laisse entendre que le début du troisième trimestre se passe bien aussi. Donc ça veut dire que l'ensemble de l'année 2022 aura été quand même très favorable pour les constructeurs, ce qui n'est pas le cas pour les équipementiers, puisque les équipementiers n'ont pas ces effets prix et ont eu des volumes qui ont été plutôt à la baisse du fait de ces problèmes de shortage de semi-conducteurs. Et donc toute la question sur le secteur automobile, c'est de savoir quand et comment la situation se normalisera, comment les constructeurs défendront leur marge dans un environnement qui reviendra un peu vers la normale en termes de mix et de prix, probablement. Nous, on reste toujours plus acheteurs des constructeurs que des équipementiers. Et il est clair que sur les 6 prochains mois, on aura probablement encore de bons chiffres sur ce secteur-là. Donc, on verra ce qu'il en sera pour la fin de l'année et surtout 2023.
Pierre, vous restez avec nous. On va marquer une pause. Juste après, on parlera de Atos, Thales et puis on parlera de votre pépite, le titre Euro API, qui a encore progressé aujourd'hui. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en progression de 0,64%, 6086 points. Et on va continuer de refaire cette séance avec Pierre Bouchny, directeur de la recherche chez Kepler Chevreux. On va parler de Atos et de Thales. La rumeur, les spéculations autour d'un éventuel rapprochement agitent le marché depuis quelques jours. Le titre Atos a encore gagné 3,4% ce soir, 14,2% sur les 5 dernières séances. L'État français serait à la manœuvre derrière cet éventuel rapprochement, Pierre.
Absolument. Alors, on refait peut-être un peu d'histoire sur Atos et ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours maintenant qui a amené le titre à un niveau très très bas et les investisseurs à considérer que ça allait peut-être s'accélérer en termes de cession de ses activités plus intéressantes. Donc, le groupe a annoncé dans le cadre d'une réunion investisseur il y a une dizaine de jours qu'il allait se scinder en deux. C'est ce qui était assez attendu par le marché. Entre d'un côté les activités qui aujourd'hui sont en décroissance, pas rentables et qui sont un peu le boulet du groupe. Donc, ça sera logé dans une structure qui s'appellera Tech Foundation, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 milliards et qui a vocation à aller vers 4 milliards. Et pour essayer de restructurer cette société avec des mesures de restructuration importantes. Et donc, la mauvaise nouvelle, finalement, c'est que les restructurations pour remettre cette activité Tech Foundation au niveau de la rentabilité et vis un objectif de marge de 5% coûteront finalement beaucoup plus cher que ce qui était annoncé. On a plus d'un milliard de restructurations qui seront nécessaires. Au même moment, donc la deuxième entité a été décrite avec ses objectifs et la mauvaise nouvelle est que finalement le groupe consacrera 30% de la valeur de cette entité qui s'appelle Evidian, qui est une sorte de petit Capgemini avec un objectif de 7 milliards de chiffre d'affaires et 12% de marge à l'horizon 2026. Mais dans les calculs que les investisseurs faisaient, on considérait que la totalité de cet actif serait détenu par les actionnaires d'Atos. Or, il faudrait consacrer un tiers de cet actif pour financer la structuration. Le même jour, le directeur général, Rodolphe Belmer, a annoncé son départ. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui prouve que la société est quand même dans une situation qui n'est pas stabilisée en termes de stratégie et de management. Et donc, ça a relancé d'une certaine manière les anticipations ou les questions sur la cession d'activités qui sont importantes pour le gouvernement. Donc, ces activités de cybersécurité, on parle de l'ordre de 7 à 800 millions d'euros chiffre d'affaires. On parle d'HPC, c'est-à-dire de la fabrication des supercalculateurs. C'est de l'ordre de 500 millions de chiffre d'affaires. Et donc, cette entité ou ces entités ou ces activités intéressent beaucoup de monde et l'État veut absolument les sanctuariser en termes d'actionnariat de manière à ce qu'elles restent à la fois françaises et dans le giron d'un groupe qui aura les moyens de financer leur croissance. Donc effectivement, les spéculations ont redémarré cette semaine. Le gouvernement a plus ou moins laissé entendre qu'il avait la préférence de Thales parmi les différents groupes qui ont manifesté leur intérêt sur ces actifs. Airbus, ça peut être Capgemini. Donc Thales, parce qu'il est déjà présent dans ce segment de la cybersécurité, pourrait constituer en fait une sorte de champion national. Politiquement, ça fait du sens probablement de concentrer beaucoup d'actifs. Et Thales a aussi en interne les compétences pour accompagner le développement de ces activités. Donc voilà, donc on verra. Il est clair que pour Atos, la vraie question aujourd'hui, c'est la valeur de ces actifs et compte tenu des bouleversements qu'on a encaissés depuis un an et demi là-dessus, je pense que le marché est un petit peu perdu sur la vraie valeur de ses actifs. Je pense à l'inverse que Thales ne fera pas n'importe quoi. Je vous rappelle que Thales n'est pas détenu que par l'État, mais aussi par la famille Dassault, qui sont à parité avec 26% du capital chacun. Ils sont à parité dans les discussions stratégiques et Dassault est connu pour être un actionnaire qui est relativement soucieux de la bonne gestion de ses actifs. Donc, on verra ce qu'il en sera, mais il est probable que les choses s'accélèrent un peu au cours des prochaines semaines sur ce dossier. Thales Atos est au plus bas aujourd'hui, donc on pense que sur les niveaux actuels, il y a encore un potentiel de revalorisation dans une logique de vente par appartement du groupe.
Pierre Bouchny, il nous reste une minute, on va devoir aller très vite. Pourquoi est-ce que vous aimez bien Euro Happy, qui a encore gagné 3,4% aujourd'hui ?
Alors c'est à la fois un actif de nature un peu défensif, hein, ce qu'on aime bien dans le contexte actuel de marché. C'est une société en deux mots qui a été spin-offée, c'est-à-dire qui a été donnée à ses actionnaires par Sanofi, qui en a gardé 30% du capital, qui est une petite société, hein, pour Sanofi, c'est un petit enjeu puisque c'est 1,5 milliard de capitalisation aujourd'hui. C'est une société qui fabrique des principes actifs, donc c'est des éléments qui sont vendus aux autres pharmaciens pour les intégrer dans leurs molécules. L'intérêt de sortir Sanofi du giron de Sanofi, c'était de permettre sans doute son développement et de développer son activité auprès d'autres clients. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance qui sera sans doute assez modeste, hein, 4-5% par an au cours des prochaines années. Mais par contre, c'est une histoire d'amélioration de marge, de restructuration. La marge qui sera sans doute d'un peu moins de 7% cette année, 6,8% exactement, est attendue à 10% en 2024. Donc, ça devrait driver une assez forte croissance des résultats. Et en termes de multiples, pour une société de ce secteur de la pharmacie, on est sur des choses intéressantes si on veut bien acheter d'ores et déjà 2024, puisque on a un PE sur 2022 qui est à 25, qui ne serait pas, pas très attractif, par contre qui retombe à 16 si on se projette sur 2024.
Merci donc, beaucoup.
Voilà.
Merci Pierre. Pierre Bouchny, directeur de la recherche chez Kepler Chevreux. Je vous rappelle la clôture de ce soir à Paris. Le CAC a progressé de 0,64%, 6086 points. Fin de cette émission, je vous retrouve demain à partir de 15h. Dans un instant, le grand journal de l'écho présenté par Edwige Chevrillon. Elle reçoit notamment Pierre Berger, le secrétaire général de la CFDT. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.